BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre pâtir personnel, la plateforme de lancement de vos réussites boursières. En tout cas, on essaye, grâce aux expertises de tous nos intervenants, effectivement, de faire de chaque journée une occasion d'optimisation de vos performances boursières, bien sûr, grâce aussi aux publications des entreprises qui sont très nombreuses en ce moment. On vous apporte un éclairage. Étienne Braque, d'ailleurs, les suit de l'intérieur. Depuis la tour Euronext, il nous appelle, la salle de contrôle du CAC. Bonsoir, Étienne. On est à une demi-heure de la clôture en Europe. Comment
Bonsoir.
Est-ce que ça se présente ce soir?
Bah écoutez, tout l'enjeu, c'est de savoir si les 8100 points seront là ou pas à la clôture. Il est vraiment à la porte des 8100 points, ce CAC 40. 8098 points avec une progression de plus d'1%. Sur l'ensemble de la semaine, c'est du vert également, plus 1%. Deuxième semaine dans le vert et un CAC 40 qui est en passe de signer sa meilleure semaine en l'espace d'un mois et demi. Du côté de Wall Street, ça se passe très bien, grâce notamment à Alphabet qui gagne 10% et propulse le Nasdaq avec un gain de 2,2%. Le Dow Jones, de son côté, gagne seulement 0,4% parce que vous avez Intel qui perd 10% avec le groupe qui est prudent à court terme sur la demande en semi-conducteurs. À Paris, les valeurs qui propulsent la séance sont les valeurs du luxe. LVMH plus 2, Hermès qui perdait du terrain hier reprend plus de 2%, Kering plus 3,4% et puis Saint-Gobain gagne plus de 6% suite à la publication de son chiffre d'affaires. Les résultats d'entreprise continuent de rassurer. Et puis un dernier mot quand même sur la plus grosse introduction de l'année en Europe. Ça se passe aujourd'hui à Amsterdam. On est dans le private equity, on est dans le capital risque avec CVC qui lève plus de 2 milliards et ça se passe très bien, puisqu'à une demi-heure du fixing, vous avez une valeur qui gagne plus de 20%. C'est la plus grosse introduction en bourse en Europe depuis 2021.
Et ça fait plaisir, il faut quand même le dire, parce que les introductions en bourse ratées, il y en a eu beaucoup, mais là, depuis quelques jours, on en a qui réussissent. Ce n'est pas son premier coup d'essai, c'est la troisième fois qu'ils essaient de s'introduire en bourse. Cette fois, c'est réussi, donc, et c'est un succès. La semaine dernière, Planisware à Paris avait aussi réussi son introduction en bourse. On parlera effectivement de la dynamique des introductions. Est-ce que des introductions réussies, comme ça, coup sur coup, peuvent donner d'autres idées d'introduction à d'autres entreprises? C'est Vincent Lessanne pour Ports en Part qui, tout à l'heure, à 16h20, nous accompagnait. On lui a posé la question, et oui, il nous disait, ça nous rend très optimiste sur la dynamique à venir des introductions. C'était à 16h20, le replay d'ailleurs, si vous avez raté le direct, est disponible sur BFM Bourse, bfmbourse.com. De son côté, Total Energy privilégie peut-être Wall Street désormais par rapport à la Bourse de Paris. En tout cas, Total Energy n'exclut pas d'éventuellement choisir Wall Street comme place principale de cotation. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Patrick Pouyanné. On va revenir quand même sur cette déclaration, ce serait quand même un gros coup dur pour le coup pour le marché parisien. Les marchés qui continuent d'encaisser et de digérer les publications, elles sont très nombreuses, c'est vraiment la lessiveuse. Le marché fait le tri en ce moment au fur et à mesure des publications. On va essayer de dessiner des lignes transversales au milieu de ces publications et de vous apporter des clés d'interprétation un peu globales pour vos portefeuilles et puis aussi des conseils à partir de 17h35 avec nos deux intervenants dont on refait la séance c'est chaque soir entre 17h35 et 18h. Bienvenue à tous, on est à vos côtés, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et le potentiel des marchés avec nos experts, nos coéquipiers du club. Laurent Clavel, bonsoir Laurent, bienvenue.
Bonsoir.
Responsable du multi-asset au sein d'AXA IM. Julie Jourdan aussi nous accompagne, gérante action américaine pour Amplegest. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Et bienvenue également, ravi de vous retrouver l'un et l'autre. On est encore dans la première phase des publications, mais quand même cette semaine a été dense, sans doute riche de premiers enseignements d'ailleurs. Laurent, quelle ligne directrice voyez-vous se dessiner à l'issue de cette semaine très très dense?
Alors, je pense qu'il y a deux éléments que vous avez évoqués. Le premier, c'est quand même que dans l'ensemble, les résultats sont bons. Et il y a pas mal de surprises à la hausse par rapport à des attentes d'analystes qui étaient déjà assez favorables. Donc ça, c'est une dynamique positive. Le deuxième élément, c'est que il y a de la dispersion. Et cette dispersion, vous l'avez mentionné également, elle est sanctionnée ou remerciée. Donc il y a deux choses à voir, c'est que, et je laisserai Julie dire plus de détails sur l'aspect entreprise par entreprise, mais ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des bons chiffres et des chiffres supérieurs aux attentes. Il faut aussi avoir un discours prospectif, c'est-à-dire ce qu'on appelle la guidance, donc pouvoir envoyer un message sur la suite des opérations qui soit également positif et crédible.
Et là-dessus, Julie, alors vous regardez les publications notamment aux États-Unis, puis on est au cœur aussi de cette saison en Europe, vous sentez effectivement, parce qu'on parle tout le temps de la tech, mais là on va essayer de regarder plus largement, vous sentez qu'effectivement les perspectives sont encourageantes, même si par exemple la croissance américaine est peut-être amenée à ralentir, cette année on a eu un PIB du premier trimestre un petit peu décevant, les perspectives des entreprises reflètent ce ralentissement ou elles restent au contraire très très solides?
Alors déjà, si on revenait juste 10 secondes sur le PIB américain, on a quand même des éléments spécifiques qui expliquent la faiblesse hier du PIB. On attendait effectivement 2,2, on a eu un 6, c'était moins bon. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a quelques éléments un petit peu spécifiques qui expliquent la déception. Les stocks en particulier, le gouvernement, les dépenses gouvernementales qui ont été plus faibles qu'habituellement, et également les exportations, parce que les Américains consomment relativement beaucoup, et donc les importations, effectivement dans ces cas-là, le ratio est un petit peu défavorable. Si on regardait ça avec un autre biais, en normalisant, en excluant les éléments qui semblent un petit peu atypiques, on est plutôt sur une croissance de 3%.
Ah oui.
Donc, c'est pas si mauvais. Après, oui,
on aimerait
peut
bien
pas
avoir la même en Europe.
Tout, et c'est la réalité, c'est un 6 pour le moment. Mais ça montre que le sous-jacent de croissance, il est pas si mauvais. Bien au contraire, il est assez solide.
Donc ceux qui commencent depuis le chiffre de croissance d'hier aux États-Unis à parler de possible stagflation, vous dites qu'ils se trompent. Non, on va pas vers une stagnation de l'économie. On est
toujours en croissance. L'inflation est néanmoins un sujet et un point de vigilance. Ça, là-dessus, il y a pas de doute.
L'indice PCE a été publié tout à l'heure et on a une petite réaccélération de l'inflation corps aux États-Unis dans le PCE.
Tout à fait.
Ça, c'est pas très bon ça. Ouais.
Donc tout ça se traduit aussi par des réévaluations en fait des attentes sur les taux, parce que tout le monde a ça en ligne de mire, et effectivement c'est des éléments qui sont importants. Après, quand on revient aux entreprises et aux messages qu'elles délivrent, on voit qu'il y a vraiment différentes tendances qui se dégagent, notamment dans un certain nombre de secteurs qui avaient été sous pression pendant longtemps dans cette phase de normalisation post Covid, en particulier chez certaines industrielles, on voit qu'on a des surprises positives un petit peu supérieures à ce qui aurait pu être attendu. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que les surprises positives, elles se font dans un cadre où les révisions négatives, alors ça, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde, mais étaient moins fortes qu'elles ne le sont historiquement. Et la partie des surprises positives, elle est, elle, plus forte. C'est-à-dire que globalement, les profits américains sont en moyenne 6% aller au-dessus des attentes. C'est meilleur que ce qu'on a comme ratio historique. Après, attention, on n'a qu'un tiers des sociétés qui ont publié. Hein. Donc, on va voir comment ça se déroule.
La semaine prochaine, d'ailleurs, sera riche encore. La semaine prochaine, on aura aux États-Unis McDonald's et Coca-Cola. Je crois que ce sera mardi. Intéressant de voir d'ailleurs comment ils communiquent face à la concurrence des médicaments anti-obésité. McDonald's et Coca-Cola la semaine prochaine. Très intéressant, ils publieront le même jour. Et puis, dans la tech, Apple publiera jeudi prochain. On aura aussi Amazon qu'il ne faudra pas rater. Mais effectivement, c'est une question qui se pose. Alors que le chiffre de croissance aux États-Unis hier peut poser question, mais quand on regarde les sous-jacents, en fait, ça reste assez dynamique. Est-ce que les perspectives des entreprises effectivement tendent à dessiner un avenir moins rose pour les États-Unis? C'est pas évident, ça reste très solide du côté des entreprises. Du côté de l'Europe, on espère un regain de croissance pour le coup. Les PMI ici en Europe s'améliorent. Effectivement, cette année 2024, à vos yeux, Laurent, sera peut-être même l'année du comeback de l'Europe. C'est ce que nous disait il y a quelques jours David Krug pour la Financière de l'Échiquier. Attendez-vous au comeback de l'Europe. Est-ce que c'est votre scénario? En tout cas, c'est un scénario qui monte en puissance pour vous.
Alors, c'est pas un scénario aberrant dans le sens où... Commençons par revenir sur ce qui a été évoqué. Il n'y a pas de contradiction, en fait, avec la progression des bénéfices et l'inflation. D'autant plus que quand on regarde le chiffre d'inflation qui est sorti, ce qui angoisse tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie, hors alimentation.
Il accélère, le PCE accélère.
Absolument.
Il accélère pas, il est stable, on l'attendait en
ralentissement. À un niveau qui est élevé.
Et il est stable.
Ouais. Mais encore une fois, les bénéfices des entreprises, c'est construit en nominal, c'est-à-dire en euros courants ou en dollars courants. Et donc, il faut bien faire la somme de ce qu'on appelle la croissance du PIB, en l'occurrence, la croissance de leur activité réelle, et de l'inflation, si les entreprises arrivent à faire passer dans leurs prix les augmentations de prix plus générales. C'était donc tout le sujet du pricing power. Mais très fondamentalement, quand on parle de l'inflation des prix, c'est bien des entreprises qui vendent des produits, des biens et des services à des niveaux plus élevés. Donc c'est bien la somme des deux, la croissance réelle que vous avez évoquée, qui est un peu décevante, mais quand on regarde sous le capot, c'est quand même pas si mal que ça, et donc disons 2,5-3%. Vous avez de l'inflation sous-jacente qui aux États-Unis est encore élevée, donc à 3%, vous avez du nominal, donc la croissance des bénéfices qui part sur du 6% plus. Donc ça, c'est très bon quand même. Après, il y a un autre débat qui est effectivement la politique monétaire, et qui renvoie à cette angoisse qu'on ait une dévalorisation de la partie action si les taux devaient remonter, et notamment un renchérissement du coût de la dette. Ça, oui. C'est un autre sujet, mais sur l'aspect dynamique des bénéfices, on est sur quelque chose de très dynamique.
Je sens que vous brûlez, Laurent, de parler aussi de la note de la France, Fitch et Moody's. Ce soir, les agences de notation vont annoncer leur décision. On en a un petit peu parlé aussi dans la précédente heure de BFM Bourse. On en parlera dans un instant. Mais juste avant, je voudrais aussi attirer votre attention sur quand même la déclaration du jour. Celle qui aujourd'hui fait le plus parler dans les salles de marché et même dans la société française, on peut le dire, c'est Total Energy, dont le PDG Patrick Pouyanné n'exclut pas de faire de Wall Street la place principale de cotation pour Total Energy. Donc, Total Energy serait d'abord un titre Wall Street plus qu'un titre parisien. Incroyable. Un coup dur peut-être à venir pour la Bourse de Paris. Et c'est une question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Bourse. Vous tous qui nous suivez, vous pouvez vous abonner à ces deux fils BFM Bourse. Pour vous, Total doit-il quitter la Bourse de Paris? Alors vous êtes un tiers, 32% à répondre oui. Oui, Total Energy doit, a intérêt à quitter la Bourse de Paris. Un tiers. Une majorité quand même à 50% à répondre non. C'est toujours ce match entre les marchés européens et Wall Street. Total Energy attiré par Wall Street. Comment est-ce que vous l'interprétez ça, Laurent?
Alors, faut pas faire de confusion et c'est le cas aussi quand on fait le lien entre l'activité et les valorisations. Comme vous savez, il y a énormément d'entreprises européennes qui marchent très bien et qui sont valorisées à des niveaux élevés parce que justement, elles sont connectées, leur chiffre d'affaires est connecté à l'ensemble de l'économie mondiale. Donc ensuite, ça peut amener des effets difficiles, notamment quand elles sont très liées à la Chine à un moment donné où la Chine.
Et pourquoi Wall Street? Non, mais la question est très simple. Pourquoi voilà, Wall Street plutôt que la Bourse de Paris?
C'est pour une logique de détention. C'est-à-dire que le marché, enfin les investisseurs américains et notamment les investisseurs particuliers, les privés, enfin les gens comme vous et moi, aux États-Unis, il y a un niveau de littératie financière, en tout cas d'acceptation de l'investissement en actifs risqués américains qui est très élevé. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on a des ménages américains qui ne sont pas des spécialistes de la finance, qui vont acheter des actions d'entreprises individuelles. Donc concrètement, ils achètent du Nvidia, du Tesla, du Amazon, et on l'a vu...
Chevron, du Exxon, dans le
absolument.
Pétrole.
Absolument, et c'est assez bluffant, parce que quand on regarde les flux, et on peut effectivement regarder les catégories des investisseurs pour savoir un peu qui est acheté, on s'aperçoit que donc, ce qu'on appelle le retail américain, c'est-à-dire les gens normaux, ont acheté finalement ces boîtes de la tech plutôt en avance de phase par rapport aux gérants d'actifs. Donc ils ont été assez malins en fait dans cet élan. Évidemment, ils ont nourri cet élan puisque ça a fait du volume, de l'intérêt. Donc c'est juste la logique de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de demandes pour acheter ces titres, ça fait augmenter le prix à offre inchangée. Je pense qu'il y a cet effet-là dans la déclaration du PDG de Total. Il y a aussi une réalité qui existe déjà dans la détention d'actifs pour cette entreprise française. Donc, il ne vient pas chercher des nouveaux investisseurs. Il constate la réalité de sa base d'investisseurs.
Oui, c'est-à-dire qu'il veut s'approcher des investisseurs de Total Energy qui sont de plus en plus nord-américains. C'est ce qu'il dit. Les Européens achètent de moins en moins notre titre Total Energy. Ils le conservent, voire ils l'allègent. En revanche, les Américains, eux, l'achètent de plus en plus, au point que les Nord-Américains, dit Patrick Pouyanné, représentent maintenant quasiment la moitié de notre capital. Voilà. Et donc, on veut se rapprocher éventuellement. En tout cas, on y réfléchit. Pourquoi pas? C'est la conséquence aussi. Alors là, je vais peut-être vous mettre mal à l'aise, je ne sais pas, mais de le ESG. Enfin, en Europe, on est un petit peu plus strict sur le ESG, un peu plus exclusif que les Américains. Du coup, il y a peut-être effectivement moins d'Européens qui investissent dans le titre Total Energy que moins d'Européens que d'Américains. Ça finit par devenir un handicap pour l'attrait de nos places financières et pour Paris, par exemple, face à Wall Street.
Alors, non. Honnêtement, et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais la vision qu'on défend chez AXA-IM sur cette logique-là, c'est pas celle-là. Et donc je pense que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que la logique de l'intégration ESG, c'est d'aller chercher dans chaque secteur, en s'efforçant de ne pas faire de déformation sectorielle, les entreprises les mieux disantes. En fait, c'est très logique. Si on enlève, comment fonctionne l'économie marchande sur de l'énergie? Si on enlève la totalité du secteur énergétique, il n'y a pas d'économie. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de construire un portefeuille en se disant « je ne veux pas le secteur énergétique ». Par contre, se dire « au sein du secteur énergétique, je veux les entreprises qui font le plus d'efforts, qui ont et qui ont une stratégie crédible pour affronter la transition qui est une réalité », ça fait du sens. Donc non, je ne pense pas. Total d'ailleurs, c'est pas la seule, mais il y a un certain nombre d'entreprises énergétiques européennes qui ont été analysés par un certain nombre de notation comme très crédible sur ce sujet de la transition. Donc ça vient accaparer, les meilleurs accapareront les flux d'investissement de ce point de vue-là.
D'accord. Donc l'ESG n'est pas forcément un handicap pour les marchés européens, même si un groupe comme Total Energy pourrait choisir un jour de faire de Wall Street sa place principale de cotation plutôt que Paris. Voilà.
Encore une fois, je pense vraiment que c'est le sujet de est-ce que c'est possible d'avoir du privé, donc du retail européen, que ça intéresse d'aller acheter des actions, et c'est difficile.
Les Américains, ils jouent leur retraite en bourse. Ils placent leur retraite dans les marchés financiers. C'est pas le cas des Européens. C'est pour ça qu'ils investissent si massivement dans le marché. C'est pour ça que les flux aux États-Unis sont plus importants, les volumes aussi, les liquidités plus importantes encore qu'en Europe. Et c'est peut-être ça aussi que Total Energy vient chercher. Julie, vous êtes spécialiste des marchés actions américains. C'est intéressant. On peut comparer par exemple la valorisation de Total Energy à celle de ses pairs, les autres grandes majors pétrolières, dont les performances industrielles sont pas forcément meilleures, mais dont la cotation en bourse, elle, est beaucoup plus performante.
De manière structurelle, le marché américain est plus cher. Ça, c'est quelque chose qui est aussi, qu'il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, le fait qu'on ait une cohorte d'investisseurs qui est beaucoup plus large, effectivement, parce qu'ils sont obligés de placer leur retraite partiellement en bourse. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et de l'autre côté, parce que souvent, ce sont des marchés d'innovation. Et donc l'innovation, c'est source de plus de croissance, et cette source de croissance se valorise plus cher. Mais même quand on regarde l'énergie, et c'est vrai que moi, je ne connais pas Total Energy, je ne pourrais pas parler de ses fondamentaux.
Mais vous connaissez Chevron, Exxon, les Américains.
Mais quand on regarde Chevron ou Exxon, en fait, ça se paye beaucoup plus cher en termes de valorisation. Quand on regarde le PE de Total Energy, ça s'échange 8 fois l'année prochaine. Quand un Chevron ou un Exxon s'échange 13 fois. Et 13 fois, c'est pas beaucoup au regard de la valorisation du marché américain. Et quand on regarde juste combien ça se paye les ventes, là, on est carrément à 0,7 fois quand on est à 1,40 fois. Donc, on est moitié moins cher que ce que ne sont les Américaines. Donc, c'est vrai que les Américains sont prêts et à payer plus cher structurellement sur des valeurs d'énergie.
Bon, on verra quel sera le choix. Oui, allez-y, Laurent.
Je suis entièrement d'accord. Il y a deux effets auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est effectivement la composition sectorielle des indices. C'est-à-dire que dans les actions américaines, il y a beaucoup de valeurs de la technologie qui se payent de façon générale plus chère. À l'inverse, en Europe, il y a davantage de bancaires
qui se payent beaucoup moins cher.
Or, les bancaires, de façon structurelle, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, se payent moins cher. Donc, si en composition, vous avez davantage de bancaires qu'aux États-Unis et que justement les bancaires, quelle que soit la région, se payent moins, mais du coup la région se paye moins. Vous avez raison, au-delà de ça, il y a ce différentiel de valorisation qui est
oui, parce que dans le même secteur, là pour le coup, je dis comparé au sein du secteur pétrolier, Total est beaucoup moins cher qu'un Chevron ou un Exxon. Donc quand on est aux États-Unis, on arrive à beaucoup mieux se valoriser qu'en France ou qu'en Europe.
Et de ce point de vue-là, ça permet de faire le lien avec votre question de tout à l'heure, qui est est-ce qu'on peut voir le renouveau du marché actions européen à partir de maintenant, en 2024, et voilà. Ce qu'on voit, on en revient à nos amis investisseurs particuliers américains, c'est que quand le dollar est très cher, et on l'avait vu fin octobre 2022, on avait un niveau du dollar qui devenait vraiment, vraiment très élevé, dans un moment un peu de panique de marché. Du coup, ce que faisaient un certain nombre d'investisseurs américains, c'est qu'ils allaient acheter des valeurs européennes, donc des actions européennes, et ils ne hedgeaient pas la devise. Donc ça veut dire qu'ils parient implicitement sur le fait que le dollar va se déprécier. Et du coup, ça faisait des rendements pour un investisseur en dollars qui étaient vraiment magiques. Parce que derrière, vous avez eu une dépréciation du dollar versus l'euro qui était de l'ordre de 10%, parce qu'on est passé d'en gros 0,95 à 1,05. Donc vous prenez 10%, et en plus, on est sur un moment où le marché action européen était très peu cher, notamment en différentiel. Il repart, et de fait, sur la période novembre-décembre, et en gros jusqu'à l'effet Silicon Valley Bank Crédit Suisse, on a une surperformance du marché action européen qui est en partie liée à ces flux.
Mais c'était une exception, on est d'accord. Non mais vous êtes l'avocat des marchés européens ici, manifestement.
Non mais je pense que...
Et je comprends. Mais est-ce qu'à la fin, par exemple sur l'ESG, effectivement c'est aussi l'ESG, c'est utile l'ESG, c'est nécessaire même pour la planète, on est bien d'accord. Et même sur les critères sociaux et de gouvernance, on est d'accord. Mais pour l'investisseur, aux États-Unis, c'est moins un frein manifestement que pour l'investisseur en Europe. Est-ce que les règles ESG sont pas un peu trop strictes ici en Europe par rapport aux règles ESG telles qu'elles sont aux États-Unis? Est-ce qu'à vouloir être la plus herbivore de toutes, l'Europe finira pas au milieu de tous les carnivores en steak, quoi? Enfin...
Alors comme vous savez, il y a une certaine ambivalence aux États-Unis sur l'ESG, puisqu'on a On a tout le spectre, ce qui est assez logique, hein, puisque les États-Unis, oui, ça reste quand même une zone énorme, hein, c'est plus de 300 millions de personnes, donc la bonne comparaison, c'est évidemment l'Union européenne. Et il y a peut-être davantage de cohérence et d'accord au sein de l'Union européenne sur ce qu'on essaye de faire. Comment on le fait, il n'y a pas forcément d'accord, mais sur la direction et sur les défis auxquels on fait face. Là, aux États-Unis, comme vous savez, on est arrivé à un niveau de polarisation politique sur ce sujet-là qui est extrême. Et donc, aller expliquer à un Californien qu'il n'y a pas de problème avec le réchauffement climatique, bon courage. Donc, on a quand même des investisseurs, notamment institutionnels californiens, que ces sujets continuent d'intéresser. Et à l'autre bout, on sait qu'on a même pas seulement réglementaire, mais il y a même un souci contentieux avec un certain nombre d'investisseurs américains, oui, qui se retrouvent dans une situation difficile, oui, parce qu'ils ont du mal à défendre la politique ESG qu'ils ont choisie.
Et même BlackRock, par exemple, qui a pris ses distances.
C'est cité, mais oui. Absolument.
Effectivement. Bon, alors les États-Unis sont pas quand même complètement immunes à tout. Il y a une dédollarisation du monde, alors légère et douce, mais quand même qui est à l'œuvre. Un certain nombre de pays émergents qui essaient de diminuer leur exposition au dollar en achetant de l'or. Beaucoup de banques centrales, par exemple, la Chine. Et il semble que ça courrousse les équipes de Donald Trump. On est toujours en pleine campagne électorale aux États-Unis. Les conseillers c'est Bloomberg, hein, qui nous rapporte cette information. Les conseillers de Donald Trump envisagent, pourquoi pas, des sanctions à venir vis-à-vis des pays, Julie, qui choisiraient de se dédollariser. Des sanctions américaines contre les pays qui choisiraient de réduire leur exposition au dollar.
Je crois qu'il y a beaucoup de déclarations en ce moment, hein, de l'équipe de campagne de Donald Trump. On a des déclarations qui sont là-dessus. On a des déclarations qui sont sur la nouvelle gouvernance potentielle de la Fed. On a beaucoup de déclarations. Aujourd'hui, toutes ces déclarations, c'est beaucoup de bruit. On verra demain qui est élu, et c'est vrai que la réalité d'aujourd'hui, c'est que il y a cette dédollarisation, certes, mais ça reste quand même une, oui, monnaie d'échange tout à fait pertinente, et on le voit bien notamment sur les matières premières et sur un certain nombre de transactions.
On pourrait imaginer, comme ça, si Donald Trump était réélu, que les États-Unis imposent des sanctions aux pays qui choisiraient de se dédollariser. Enfin, on fait ce qu'on veut de ses réserves quand on est une banque centrale. Enfin, on est encore libre. Enfin, j'imagine, je ne sais pas d'ailleurs, Laurent. Ouais.
Je pense qu'il faut le regarder dans l'autre sens. C'est de quel pays on est en train de parler ? On est en train de parler de ce qu'on appelle le Global South, donc
les BRICS,
pays du Sud, voilà. Donc, et c'est la même chose que les BRICS. Effectivement, le contexte international, il est assez clair sur le positionnement des États-Unis vis-à-vis des BRICS. Les pays qui empilent des réserves en or, c'est la Chine, c'est la Russie. Que Donald Trump hausse le ton vis-à-vis de la Chine, bon, on l'a déjà vu en 2016. Donc finalement, ce discours-là, il est très aligné avec le discours qu'il a aussi sur les sanctions commerciales. Et l'idée qu'il avait déjà développée assez profondément, hein, en 2016, qui était que la Chine et aussi l'Allemagne, il avait évoqué l'Allemagne, volaient les Américains en ayant un excédent commercial. Bon, c'est une façon très curieuse de voir le commerce mondial, hein, ça ne correspond pas vraiment à une réalité en pratique. Et à la fin, il faut bien que les échanges s'équilibrent, sauf si on veut faire du commerce avec Mars et la Lune. Donc tout ça n'avait pas beaucoup de sens. Et à la fin, ce qu'on a quand même eu pendant des décennies, c'est des Chinois qui travaillaient beaucoup, qui empilaient effectivement des exportations qui se retrouvaient en papier américain, qui a quand même perdu une valeur considérable. C'est-à-dire que ce qu'ils ont acheté, en fait, c'est des bons du Trésor américain, c'est-à-dire la dette fédérale américaine, notamment à long terme, qui a perdu entre 20, 30, 35% en dollars avec la hausse des taux. Mais en plus, à cette époque, on avait une appréciation de la devise chinoise. Donc ça fait un double effet, pas très intéressant en fait, oui, pour les Chinois.
Qui rend la dette américaine un peu moins attractive. Effectivement. Alors la demande est là, hein, sur les adjudications américaines depuis le début de l'année, un peu moins là avant-hier sur une adjudication à 5 ans. Il faudra surveiller ça. Étienne nous appelle, on est à 8 minutes de la clôture, 17h27 ici en Europe. On se reconnecte à la séance du jour aux très très nombreuses publications. Étienne, elles sont pour l'instant, à quelques instants de la clôture, arbitrées favorablement. Le CAC est en hausse en tout cas.
Oui, très clairement, hein, quasiment sur les plus hauts niveaux de la séance, toujours à la porte des 8100 points. Décidément, c'est dur de les franchir. 8094 points, c'est une hausse de 0,98% avec le secteur du luxe qui est en tête, Total Energy qui est sur un record historique. Et puis alors du côté de Wall Street, regardez ce titre Nvidia qui repart déjà de l'avant avec un titre qui reprend 5% alors qu'Intel perd quasiment 10%. Le marché se dit peut-être, en fait, Nvidia conforte son leadership avec Nvidia qui a revu légèrement à la baisse, ses prévisions à court terme. Microsoft également est très bien applaudi après sa publication avec une valeur qui gagne un peu plus de 2%. Et donc tout ça propulse le Nasdaq avec un gain de plus de 2% quand le Dow Jones de son côté perd 0,2%, pénalisé notamment par Intel. Et donc le CAC 40 qui est bien orienté à cette dernière ligne droite avant la clôture dans 7 minutes avec un gain de quasiment 1%.
Effectivement, Étienne, on vous rappelle dans un instant pour la clôture effectivement en direct à vivre sur BFM Business. Ce soir, Fitch et Moody's vont annoncer leur décision sur la note de la France ou la perspective de la note de la France. Laurent, optimiste, pessimiste, qu'est-ce que vous attendez de la part de ces deux agences tout à l'heure ?
Alors,
le 10 ans français est à peu près stable à 3,07 en ce moment.
Donc la note, c'est double A moins. Donc il y a différentes façons de construire les notes. Chaque agence a son échelle, mais elles peuvent être mises un peu en regard les unes des autres. Donc double A moins avec une perspective stable. Bon, je pense que ce que beaucoup de gens s'attendent à voir, c'est une dégradation non pas de la note, mais de la perspective, qui est une sorte de carton jaune, hein, un peu comme, voilà, oui. En disant faut faire sursis, davantage d'efforts. Voilà. Comment ça marche fondamentalement une agence de notation ? Ils regardent des métriques comme une analyste ou une gérante action regarderait les métriques pour une entreprise. Et ensuite, la question, donc les métriques, vous les connaissez, hein, elles sont compliquées sur la dynamique de déficit, sur la croissance, sur le niveau de dette sur PIB. Mais c'est pas seulement ça, parce que sinon on regarderait de façon très passive dans le rétroviseur. Donc ce que regarde une agence de notation, c'est quelle est la crédibilité de la stratégie pour réduire ce déficit et cette dette. Donc, en gros, 50 minutes pour convaincre. Et là, c'est vrai que c'est forcément un peu difficile. Et ensuite, il faut comparer à d'autres pays. Donc, à la fin, il faut quand même trouver un gisement très important de dettes souveraines en euros de cette qualité. Il n'y en a pas tant que ça. L'équivalent évident, c'est la Belgique. Voilà. La Belgique, c'est à peu près la même taille. C'est en euros. C'est la même qualité. La Belgique a une dette aujourd'hui plus faible que la France par rapport à son PIB, et une dynamique qui est peut-être plus crédible. Donc c'est sans doute ça qui va être mis dans la balance, c'est un signal d'attention à travers les perspectives, l'outlook, qui sera peut-être négatif, enfin, pour dire attention.
L'investisseur obligataire, on verra si la perspective de la note du coup est dégradée ce soir, c'est ça l'enjeu hein, autour de Fitch et Moody's. Si tel est le cas, les investisseurs arbitreront et achèteront plutôt du 10 ans belge que du 10 ans français.
Non, tout ça est très serré hein, quand même. Bon. Jusqu'ici, ce qu'on a vu, et historiquement ce qu'on voit, c'est donc ce qu'on appelle un effet bêta, c'est-à-dire que quand le 10 ans allemand augmente, ça décale encore un peu plus le 10 ans français. Parce que ça devient moins intéressant. Évidemment, quand le 10 ans allemand était en taux négatif, c'est pas très encourageant à acheter. Vous perdez de l'argent en permanence. Donc, on décale sur de la France, ça resserre l'écart.
Oui, et puis les investisseurs, ils cherchent de la dette parce que ça rapporte. Donc, on imagine que la demande restera là, sera intéressant à suivre. Et donc, si la demande est là, ça permettra de limiter l'éventuelle tension sur les obligations françaises, même si la perspective de la note était dégradée. Enfin, ce sont des conjectures. On verra comment les choses se passent et quelle décision, surtout, sort du chapeau de Moody's et Fitch ce soir. Et puis, surtout, Standard & Poor's, dont la perspective est déjà négative. Alors là, pour le coup, Standard & Poor's pourrait vraiment baisser la note. Et là, ce serait peut-être autre chose. Et encore, ce sera le 31 mai, Standard & Poor's, qu'il faudra surveiller, donc, la décision de S&P. 17h31, on entre dans la data room. Julie et Laurent, êtes-vous prêts ?
Oui.
Mieux qu'un long discours, la data. Effectivement, vous nous apportez ce soir des data qui en disent long sur l'état des marchés et le monde vers lequel on se dirige. Julie, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, votre data ce soir, 33 milliards de dollars.
33 milliards de dollars, c'est bien ça. C'est le montant, c'est la somme des capex annoncés ces deux derniers jours par Meta, Google et Microsoft qui ont été dépensés en fait au premier trimestre de cette année. Donc on est sur des sommes qui sont tout à fait considérables et qui visent à renforcer leurs avantages compétitifs dans l'intelligence artificielle. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça ne va pas s'arrêter là en fait. Quand on écoute Meta, et c'est bien ce qui les a pénalisés aussi hier, ils ont dit bah, en fait on n'investit pas assez. Donc cette année, en 2024, on va investir plus. Donc on va passer à entre 35 et 40 milliards d'investissements qui seront consacrés en particulier à l'IA. Et ça va continuer à augmenter en 2025. Et quand on écoute Microsoft, ils nous disent « Ah ben nous, on a dépensé 14 milliards cette année et ça va continuer aussi. » Et Google, 12 milliards et on va continuer sur ce rythme. Donc on parle de 48, 50 milliards pour l'une et l'autre. Et donc qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on a des entreprises qui ont les moyens de dépenser ces ces sommes-là, qui ont l'ambition d'être, de créer des positions fortes dans l'intelligence artificielle et qui vont nourrir en fait un certain nombre de d'acteurs qui eux sont en train de construire les autoroutes de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que quand on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est vrai que on a eu un Nasdaq qui était sous pression. Là, c'est quelque chose qui nourrit en fait la poursuite du développement de Nvidia notamment et des équipementiers dans les semi-conducteurs. Donc on est vraiment dans une logique en fait, une dynamique qui se poursuit sur l'intelligence artificielle.
Rien qu'au premier trimestre, donc ce chiffre que vous nous apportez, 33 milliards de dollars les dépenses d'investissement combinées de Meta, Google et Microsoft et notamment dans l'intelligence, pour l'intelligence artificielle. Microsoft, publication saluée, le titre gagne 2,5% ce soir. Alphabet, pareil, les résultats sont supérieurs aux attentes. Alphabet gagne carrément 10%. En plus, Alphabet annonce le premier dividende de son histoire. On y reviendra dans quelques minutes, dans On refait la séance. Julie, vous vous êtes livrée. Au tour de Laurent de nous nourrir en data ce soir. Votre chiffre, c'est 33 aussi. On parlait de 33 milliards
c'est
il y a un instant.
C'est une coïncidence, ouais.
Là, c'est 33% en l'occurrence.
Alors, ça n'a pas de rapport, mais effectivement, c'est le même chiffre, donc ce sera le même nombre, ce sera facile à se souvenir. Alors, c'est très simplement la probabilité que donne le marché à une hausse des taux de la Fed dans les 12 prochains mois.
Une hausse.
Voilà. Donc j'explique d'abord comment on fait pour en arriver à ça. Donc ça veut dire
c'est pas rien,
une chance sur trois.
On répète, voilà. Une chance sur trois.
Donc moi, si j'avais une chance sur trois de mourir en montant dans un avion, je ne monterais pas dans un avion. Une chance sur trois, c'est beaucoup. Ça veut dire que c'est devenu un scénario de risque qui est tout à fait possible. Et alors pourquoi c'est surprenant? C'est parce que en décembre, quand le patron de la Fed vient s'exprimer, il nous dit que c'est fini. Et il le dit de façon très explicite, à tel point que sur le moment, il y a un certain nombre d'observateurs, d'économistes, qui ont dit sa langue a dû fourcher, c'est pas possible qu'il s'engage à ce point-là. Il n'a pas encore suffisamment de data, on en revient toujours là. Mm-hmm. D'autres membres de la Fed vont essayer de rétro-pédaler pour lui, et c'est pas du tout le cas. Ils se sont tous alignés, il a confirmé son diagnostic, et l'ensemble de la Fed a confirmé que voilà, c'était fini. Là où ils ne se sont pas engagés, c'est quand est-ce qu'on commence à baisser. Et c'était devenu le sujet. Et là, le marché change, panique un peu du coup, et se dit en fait, il y a un scénario qu'on a pas vu, qui est qu'ils se sont tous collectivement trompés à la Fed, et ils vont revenir, et il y a peut-être un tiers de chance. Alors comment on fait pour construire ce chiffre?
C'est assez simple. Très vite, hein, Laurent.
Je le fais très vite.
10 secondes, hein, c'est une minute chacun normalement.
Ok, ouais. Je vous le fais très vite.
Oui.
Quand vous voulez acheter, vous endettez, vous demandez un taux d'intérêt. S'il faut que vous endettiez dans un an, vous pouvez sécuriser ce taux d'intérêt. Mais, comme dirait mon fils, vous ne connaissez pas le futur, donc du coup, vous ne savez pas si ça sera un peu plus haut, un peu plus bas. Et donc, il y a un marché d'assurance, des options, qui vous permettent de vous protéger sur une potentielle hausse. Aujourd'hui, ça dit 33% de chance que dans 12 mois, ce taux court soit plus haut que ce qu'il est aujourd'hui.
Laurent Clavel, 33% de chance, effectivement, le loup revient peut-être dans la bergerie. En tout cas, oui, le marché presse à un tiers le risque d'une hausse de taux de la Fed d'ici un an. Incroyable quand même, hein, comme... Bon, enfin bref, c'est pas encore l'hypothèse majoritaire. On ne sait pas où on sera dans le futur. On sait une chose du futur, c'est que c'est le seul endroit où l'on passera tous le restant de nos jours, figurez-vous. Et le marché tente de lui donner un prix. On va voir comment on clôture ce soir en Europe. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Laurent Clavel, AXA IM et Julie Jourdan pour Amplegès, qui nous accompagnait aussi tout à l'heure dans l'invité décalé à 16h40. Julie, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver le replay sur bfmbourse.com, vous tous qui nous suivez. Dans un instant, donc, la clôture et Étienne sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Étienne Brack avec nous, rebonsoir Étienne, c'est la clôture hebdomadaire, comment termine-t-on cette semaine?
Bonsoir. Du vert, que ce soit en données journalières et en données hebdomadaires, plus 0,90% ce soir à la clôture. Alors néanmoins, les 8100 points n'ont pas réussi à être là ce soir au fixing. 8088 points, des volumes d'échanges qui sont présents, 3,5 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice parisien. Nouvelle séance qui a été rythmée par les publications d'entreprises, comme depuis le début de la semaine, hein, puisque depuis lundi, c'est plus de la moitié du CAC 40 qui a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre. Ça se passe très bien pour Saint-Gobain, qui gagne quasiment 7% à 75 euros. Kering est rattrapé, avec notamment un milieu de semaine qui avait été compliqué suite à la publication de ses résultats. Finalement, le fin de semaine est bon, plus 3,2% à 337 euros. Vous avez Hermès également qui se reprend, plus 2%. LVMH, plus 1,8% à 792 euros. Total Energy sur un record historique aujourd'hui à la porte des 70 euros, après des résultats meilleurs que prévu, plus 2% pour la société. Et puis, à l'inverse, quelques prises de bénéfices sur STM qui avait rebondi hier. Et puis surtout, Intel qui pèse sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. semi-conducteurs. Intel perd quasiment 10% ce soir aux États-Unis. À noter l'obligataire qui se détend, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis, malgré des chiffres d'inflation qui sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes tout à l'heure aux États-Unis, quasiment 2,8% d'inflation en données annuelles. L'euro continue de se replier face au dollar, hein, malheureusement. 1,0689 pour la parité euro-dollar. Et puis hors CAC 40, très belle performance pour Eramet qui gagne plus de 11% après avoir revu à la hausse ses perspectives. Et puis à l'inverse, moins 11% pour Alten, société notamment dans l'informatique, à 114 euros avec des résultats qui ont douché les investisseurs. Et donc le CAC 40 qui clôture en hausse, sa deuxième séance dans le vert consécutive, plus 0,9% ce soir à la clôture, à la porte des 8100 points, 8088 points. Très belle séance pour l'Asdaq qui gagne quasiment 2% avec Microsoft et Alphabet qui mènent la danse.
On va revenir dans un instant, effectivement. Gilles Santacreux est aussi avec nous pour danser en ce vendredi soir. Ça y est, c'est le week-end qui démarre. Gilles, quel signal cette clôture envoie-t-elle pour la suite sur les marchés ?
Eh bien, on danse le rock, hein, puisque en fait, il y a une chose qui est intéressante, c'est que mercredi, on a clôturé à 8091 points. Hier, on a eu donc une forte séance baissière qui a donné pas mal d'alertes. Et en fait, aujourd'hui, avec cette séance, on ne fait ni plus ni moins qu'annuler un petit peu la baisse que nous avons eue jeudi, hein, puisque on est quasiment revenu sur le même niveau de clôture à 8088 points. Donc, c'est une séance importante. On préserve, je dirais, la dynamique haussière que nous avions avant la séance d'hier, qui nous faisait sortir donc d'une tendance de trend baissier, et le fait justement de revenir sur ces niveaux de mercredi, bah quelque part rebat les cartes, puisque si on repassait au-delà de la zone des 8092 points, donc on échoue, hein, pour peu aujourd'hui, eh bien on pourrait repartir donc vers une poursuite de tendance, donc suite à la cassure du trend baissier que l'on a connu entre mardi et mercredi, et on pourrait donc commencer à viser un retour du CAC 40 sur ses plus hauts historiques. Donc une séance assez importante, qui plus est nourrie avec des volumes conséquents. Donc quelque part, c'est très positif pour cette fin de semaine.
Merci beaucoup. Ce soir, Gilles Santacreux nous accompagnait depuis les bureaux de boursiercotec.com. Et vous êtes nombreux à nous interroger face à ces nombreuses publications qui ont émaillé la semaine, la séance du jour, celle qui arrive aussi la semaine prochaine. Mais on va tout de suite vous répondre. Nos experts sont en place. On vous accompagne jusqu'à 18h à la radio, à la télé et sur notre fil X BFM Bourse également. Chaque soir, on refait la séance en direct sur nos réseaux sociaux. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Et si vous avez raté la demi-heure qui précède, quand même, Laurent Clavel pour AXA IM nous parlait d'une hypothèse de hausse de taux de la Fed. Oui, on n'entend parler que de baisse de taux depuis quelques semaines, mais l'hypothèse d'une hausse de taux revient un peu dans le marché. Pas beaucoup, mais quand même à hauteur de 33%. C'est pas rien, 33%, et ça monte, ça monte. Il faudra suivre ça. Il nous en parlait dans la Data Room. Si vous avez raté le direct, le replay est à suivre. BFMBourse.com ou encore sur notre application BFM Business. Quel potentiel pour la suite? Quelle valeur privilégiée dans vos portefeuilles? Julien Kistrebert est avec nous. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Gérant pour Taylor AM. Bruno Cusse également pour la lettre de la Bourse. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Guillaume.
Ravi messieurs de vous retrouver. Est-ce qu'on est rassuré globalement? D'abord un regard global sur les publications. Est-ce qu'on est rassuré? Est-ce qu'on est positivement surpris? Ou au contraire, on sent un ralentissement de plus en plus marqué du côté des entreprises pour cette saison de publication? Bruno.
Je trouve qu'il n'y a pas eu d'énormes surprises. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une base de comparaison qui était élevée, presque dans tous les secteurs. Et ça, on s'attendait à ce que les croissances de chiffre d'affaires soient beaucoup moins fortes en ce début d'année. Donc c'est ce qui est ressorti dans le luxe, dans l'industrie, dans les semi-conducteurs. On a vu ça, c'était un point commun presque à tous les secteurs. On a vu aussi qu'il subsistait quand même des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement dans certains secteurs, par exemple comme l'aéronautique. Il reste aussi des stocks dans les semi-conducteurs, dans les spiritueux. Donc tout ça fait que la base de comparaison était assez forte l'année dernière, et on se retrouve avec des chiffres un peu moyens en ce début d'année. Mais la plupart des équipes dirigeantes s'attendent quand même à un rebond sur le deuxième semestre. On voit que quand il y a des publications, des chiffres d'affaires décevants au premier trimestre, on nous dit à chaque fois ça devrait aller mieux, en tout cas sur la deuxième partie de l'année. Et donc beaucoup de sociétés maintiennent leur prévision de résultats, ce qui fait que pour l'instant on a un consensus qui évolue assez peu en fait sur leur point de croissance bénéficiaire pour cette année. On est à peu près autour de 6% sur les progressions de bénéfices du CAC 40 cette année. Et une valo du CAC qui est assez honnête, à 15 fois les résultats, c'est pas exagéré.
s'il fallait n'en retenir qu'une, une valeur, une publication dont vous vous dites, ah, celle-ci, cette semaine, franchement, elle a changé ma vision de l'avenir. En l'occurrence, en tout cas, celle-ci, elle m'a convaincu de l'acheter. Parce que la publication et les perspectives de cette société qui a publié sont très positifs, en tout cas, m'ont agréablement surpris. C'est laquelle ? Est-ce qu'il y en a une comme ça qui vous a plus agréablement surpris que les autres ? Julien ?
En ce qui me concerne, je sais pas, j'ai plutôt été à regarder les sociétés qui avaient fait des bonnes publications et qui avaient quand même corrigé, avec l'idée que, alors, certes, les résultats sont plutôt bons, alors, toujours la même chose, hein, nettement meilleur de l'autre côté de l'Atlantique par rapport au consensus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez qu'on voit depuis plusieurs trimestres. Je dirais globalement, on a eu des entreprises aussi qui ont bien publié et qui ont quand même corrigé. Et qui là offre des points d'entrée qui sont assez intéressants. On parlait du luxe effectivement, où là c'est peut-être le grand écart. Hein. On a LVMH, Hermès, Moncler qui ont plutôt rassuré. Kering, on l'a vu, où là ça a été extrêmement compliqué. Certainement un problème de positionnement de marque, mais pas seulement. On voit qu'il y a des points en tout cas qui sont un peu plus difficiles. Voilà, donc globalement, je dirais que les publications sont solides. Le deuxième trimestre effectivement va être bon. Le deuxième semestre aussi devrait repartir dans une bonne dynamique. Voilà, mais nous plutôt dans l'idée d'aller chercher des dossiers qui ont reculé sur des publications qui étaient solides.
Donc par exemple,
il y a eu quand même des prises de profit. Bah, je sais pas, par exemple
Hermès.
Airbus aussi, ah, qui a reculé. Parce que,
la publication était décevante.
Oui, mais c'est beaucoup d'exceptionnels, en fait, oui, qui ont pénalisé. Donc là, on a un bon carnet de commandes, la dynamique est solide. Sur ces niveaux-là, ça nous semble être des zones intéressantes. Des Vinci aussi, même si on va en reparler un petit peu après. Voilà, donc il y a des choses, en tout cas, qui ont reculé, qui n'auraient pas dû le faire, certainement, et qui offrent des points de pour se renforcer, en tout cas.
Ce soir, la plus forte hausse du CAC, c'est Saint-Gobain, quand même. Quasiment 7% de hausse pour Saint-Gobain, malgré une activité dans le neuf vraiment... en berne, et pourtant, la publication est largement saluée, jugée rassurante par les investisseurs, notamment le ConfCall, hein, manifestement avec les analystes de la direction de Saint-Gobain. La tonalité des dirigeants de Saint-Gobain a permis effectivement de changer le regard sur cette publication et rendre plus positif ce soir, donc quasiment 7% de hausse Saint-Gobain, Bruno.
Oui, c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, le début d'année est quand même assez poussif. Hein. Pour la première fois, on a un effet prix qui devient négatif, parce que jusqu'à maintenant, chez Saint-Gobain, on avait des volumes qui commençaient à baisser en fin d'année dernière, avec ces problèmes sur les marchés du bâtiment, du résidentiel neuf. Mais en plus, en ce début d'année, on a un effet prix qui commence à devenir un petit peu négatif. Apparemment, en séquentiel, ça s'améliore quand même par rapport à la tendance à s'améliorer. Donc la société a plutôt rassuré. Elle a maintenu d'ailleurs ses objectifs. On aura une marge opérationnelle à deux chiffres pour la quatrième année consécutive. C'est quand même pas mal pour un groupe qui était censé être cyclique et qui l'est de moins en moins grâce à ses investissements.
Il faut encore acheter Saint-Gobain ?
Nous, on est acheteurs.
Encore,
on est sur une valo qui n'est pas exigeante.
Julien, vous achetez aussi ?
Oui, la valorisation est très raisonnable. Et puis, il bénéficie surtout, au-delà du... On parle beaucoup du neuf, mais il bénéficie beaucoup de la rénovation. Hein. Là-dessus, sur lequel il y a une dynamique assez forte, l'isolation. On voit que la Commission européenne veut pousser aussi à aller plus loin sur les aides pour la rénovation des bâtiments. Donc voilà, donc ils sont clairement sur ce méga-trend. Et puis, c'est vrai que les marges, aujourd'hui, sont extrêmement solides.
Vous êtes sur Snap, je crois, Julien et Bruno. Hein. Très présents sur Snap. Chat, on peut vous y retrouver. Non ? Ah non, vous n'êtes pas sur Snap, vous ?
Non.
Non ?
Non.
Bruno ?
Non plus.
Oh. Et en termes d'action, en portefeuille boursier, pas sur Snap non plus ? Vous n'avez pas ce titre Snap en portefeuille ?
Non.
Non, vous avez tort. En tout cas, aujourd'hui. Pas un titre facile, hein, Snap. Non, mais aujourd'hui, alors là, waouh, plus 22% Snap aux États-Unis. Le chiffre d'affaires du premier trimestre ressort largement supérieur aux attentes. Snap, c'est la star du jour sur le marché américain, Snap, plus que Alphabet, dont la publication aussi rayonne. Alphabet gagne 10%, l'annonce d'un premier dividende pour Alphabet, mais Snap fait encore mieux. Et puis Microsoft aussi, très belle publication. L'IA qui rapporte des revenus de plus en plus, toujours pour Microsoft, le titre gagne 2,5%. La tech américaine, on a encore Apple et Amazon à suivre la semaine prochaine, mais voilà, à l'issue de cette semaine. Tout à l'heure, Charles Monod disait... C'est Meta qui m'a le plus impressionné, alors que Meta a été sanctionné par le marché sur sa publication. Mais il nous a dit que le marché était cruel. Meta, ce qui nous annonce le meilleur premier trimestre de l'histoire de Meta, quand même, dans cette publication, c'était très impressionnant. Et c'est cette valeur que j'ai renforcée cette semaine en profitant de la baisse, la sanction par Wall Street de ce titre Meta. C'est le choix que vous faites aussi, ou vous préférez Microsoft, Alphabet, pourquoi pas Snap, Bruno ?
Nous, on a une préférence pour Microsoft, qui est quand même l'associé la plus avancée, la plus aboutie dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, hein, qui maintenant l'intègre dans toutes ses solutions, ses logiciels. Et ça se traduit vraiment tout de suite concrètement par des chiffres d'affaires et des résultats positifs. On voit que les autres sont un peu en train de courir encore derrière. Ils commencent aussi à avoir des gains hein, chez Alphabet. Et chez Meta, bon, effectivement, ce qui fait peur, c'est la masse d'investissements. Hein. Un 45 à 50 milliards d'investissements dans l'IA et dans la réalité virtuelle, ça fait peur. On se demande si ces masses colossales vont se transformer en bénéfices un jour. Donc, pour l'instant, nous, on préfère le dossier le plus sécurisant, c'est Microsoft, même s'il est un petit peu cher.
Alors, voilà.
On a des croissances de bénéfices. Pour l'instant, qui sont là et qui on continue sur un train de croissance à 15% par an. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire.
Grâce au cloud et à l'IA, sauf que, alors oui, Microsoft progresse de 2,5%. Ok, un point, marquez un point. Mais que 2,5% de hausse, alors que dans l'IA, c'est un carton, quoi. Les revenus sont de plus en plus élevés. Enfin, on a le sentiment qu'il y a 3, 4, 5, 6 mois, une telle publication a été saluée par une hausse de 8, 9, 10%. Et puis là, l'IA opère. Alors elle opère, mais elle opère un peu moins dans les cours de bourse. Est-ce que l'effet un peu magique de l'IA sur les cours de bourse est en train de s'estomper, Julien ?
Tout est relatif, mais non. Évidemment, le cours de bourse a bien monté ces derniers temps. Donc, c'est vrai que le marché fait peut-être une petite pause, mais c'est vrai que c'est surtout sur la publication d'Azure, hein, parce que c'est vrai que sur la partie cloud, le marché a pu sanctionner Microsoft par le passé en disant il y a un ralentissement sur la partie cloud. On voit que c'est pas le cas, hein, que la croissance continue d'être très très forte, hein, plus de 30%. Donc ça, c'est évidemment une bonne chose. Alors c'est vrai que d'aller chercher du méta, c'est chercher plus de volatilité, donc avec des performances qui peuvent être plus en tout cas sportive, mais aussi des séances plus compliquées. On ne parle pas de Snap, alors là c'est encore un autre sujet.
Méta ceinture, hein, c'est ce que disent les investisseurs.
On peut le dire, s'accrocher à sa ceinture là. Mais ça, Alphabet, par contre, je trouve que ça c'est assez intéressant. La publication est très bonne. On voit que l'outil Gemini aussi est assez performant et qu'il a d'autres avantages par rapport à ChatGPT. Alphabet est certainement en tout cas un outil, un véhicule toujours intéressant.
Ils ne sont pas condamnés à rester en retard en permanence et éternellement sur Microsoft. C'est ce qu'on se dit à l'issue de cette publication. Peut-être,
exactement.
Ouais. Plus 10%. Exactement. Et en plus, l'annonce d'un premier dividende et de rachat d'actions Alphabet, donc plus 10 ce soir. Messieurs, on vous rappelle la clôture, et messieurs, dames, qui nous écoutez aussi en direct sur BFM Business, la clôture en hausse, la clôture hebdomadaire. D'abord, sur la semaine, le CAC 40 progresse et il gagne sur la séance du jour 0,9% à 8088 points. Mais la grande actualité du jour, c'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui, en répondant à une question d'un journaliste, a annoncé que le titre Total Energy pourrait finalement muter, déménager à Wall Street. En tout cas, une cotation principale peut-être un jour à Wall Street pour Total Energy, plutôt qu'à Paris. C'est une question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs sur le fil XBFM Bourse et le fil LinkedIn. Vous pouvez vous y abonner, vous tous. À vos yeux, est-ce que oui, Total Energy aurait intérêt à quitter la Bourse de Paris ? Vous êtes quand même 32% à voter oui. Ah ! Julien, vous diriez oui aussi ? Enfin, Wall Street, c'est mieux que Paris pour un groupe comme Total Energy, en l'occurrence ?
C'est mieux, ne serait-ce que, enfin, de leur point de vue, hein, le sujet ESG est assez prégnant chez les investisseurs européens. Donc, forcément, beaucoup d'investisseurs européens ont plutôt tendance à délaisser ce secteur. On l'a vu aussi avec le label ISR, hein, où il faut sortir tout ce qui est énergie fossile. Donc, il y a plutôt une tendance à mettre moins de capitaux. Donc oui, ils peuvent le faire s'ils veulent avoir une meilleure valorisation. Après, dans les faits, vu le bilan de la société, à ma connaissance, c'est pas besoin de faire d'augmentation de capital.
Oui, donc, oui, mais leur père, leurs concurrents américains, qui sont industriellement, qui sont pas forcément meilleurs, voire qui sont moins bons, boursièrement parlant, ont de meilleures performances parce qu'ils sont à Wall Street. Chevron, Exxon.
Pas que. Ouais. Il y a aussi l'effet gaz et pétrole américain, qui a une base de coûts assez compétitive. L'aspect géopolitique aussi. Quand vous avez vos actifs sur cette zone-là, il y a moins de risques, donc vous avez une prime de risque qui est moins élevé aussi. C'est un peu plus complexe que ça. Alors, je comprends l'intérêt pour ceux qui touchent des actions gratuites, hein, notamment les cadres dirigeants, d'avoir une meilleure valorisation. Maintenant, quand vous n'avez pas besoin spécialement de faire appel au marché, je ne pense pas que ce soit indispensable. Mais je peux comprendre la logique.
Bah oui, vouloir se valoriser toujours davantage, attirer l'argent, c'est à Wall Street qu'il est l'argent. En plus, il y a de moins en moins de volume sur les marchés actions en Europe, donc autant aller chercher les volumes là où ils sont, en l'occurrence plus à Wall Street où les Américains pour leur retraite investissent en bourse qu'en Europe. Enfin, on peut comprendre cette logique, même si ce serait quand même, Bruno, une grosse perte pour la Bourse de Paris.
Oui, ce serait une perte, mais quand on voit le traitement boursier de Total aujourd'hui, je trouve que c'est pas cher payé, hein. On se paye des ratios. Quand on voit ce que se paye Exxon et Chevron, par exemple, c'est 13 fois les bénéfices. Total, c'est 6 ou 7 fois. Donc,
c'est deux fois moins valorisé, en fait.
Voilà, c'est deux fois moins valorisé. Donc, je pense qu'il y a des actionnaires qui doivent gronder aussi. Et l'ESG, c'est vrai que c'est bien, mais il faudra peut-être qu'un jour tenir compte aussi du fait que Total réalise un tiers de ses investissements dans les énergies renouvelables. Hein. C'est pas neutre.
Vous dites que les investisseurs européens sont un peu ingrats vis-à-vis de Total sur sa transition
énergétique. Oui. Patrick Pouyanné expliquait justement tout à l'heure que la part des Européens est en train de baisser au capital de Total Energy. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'ils réfléchissent à aller à Wall Street, parce que les Européens arrêtent d'acheter le titre Total Energy alors que les Américains continuent de l'acheter.
Et donc il va y avoir une pression de plus en plus forte, je pense, de voir des actionnaires pour avoir une cotation à Wall Street où les valorisations sont bien plus fortes.
L'ESG risque d'asphyxier, en tout cas limiter l'attrait des marchés européens et au profit une nouvelle fois de Wall Street parce que les Américains sont moins stricts en matière de ESG justement.
En tout cas, c'est vrai qu'on va se couper de certains compartiments qui, pour moi, sont quand même essentiels. Hein. Bon, on parle de Total, mais on pourrait parler aussi du secteur de la défense ou des sociétés comme Thales ou Dassault Aviation, quand même, ont toute leur place, hein, quand on voit la performance, en tout cas, du secteur de la défense depuis le début de l'année. Et est-ce que finalement, la défense nationale, c'est pas un critère aussi qui doit rentrer dans l'ESG, voilà, il faudra qu'on...
Vous n'aimez pas l'ESG, on a compris.
si, mais en tout cas, voilà, ça pose question. Et c'est difficile de se couper de ces sociétés qui surperforment largement les marchés depuis le début de l'année.
Effectivement, oui. C'est une thématique dont on a beaucoup parlé, bien sûr, Total Energy, qui pourrait faire de Wall Street sa première place de cotation, figurez-vous. Bon, on va suivre tout ça très très près. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Julien Kistrebert, Taylor AM, T-A-I-L-O-R-A-M. Je dis ça parce que comme vous n'êtes pas resté très longtemps parce que j'étais en retard, j'essaie de me rattraper en donnant l'orthographe de vos sociétés, comme ça j'ai bonne conscience. Merci beaucoup Julien d'être venu, merci beaucoup. La lettre de la bourse, bon ça je pense que tout le monde sait l'écrire. Gonocus, KUS en l'occurrence. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée, le CAC ce soir gagne 0,9% en clôture. Dans un instant, good evening business, Thomas Asportas. Bonne soirée et bon week-end.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.